Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. On en est encore là à entendre dans la rue, dans les transports, des propos aussi élégants que « elle est courte ta jupe » ou encore « habillé comme ça, il va t'arriver des malheurs ». Et je garde pour moi les plus scabreux auxquels certaines d'entre vous ont dû faire face. On en est encore là à entendre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale une femme sifflée parce qu'elle est une femme, le tout par des hommes censés représenter le peuple de France. Même un coq dans son poulailler ne se permet pas de siffler les poules. On en est encore là à sentir la pression qui pèse sur un droit chèrement acquis et qui s'appelle l'avortement. On en est encore là à voir si peu de femmes à la télévision, à la tête de grands groupes ou aux primaires des partis politiques. Comment améliorer la situation? Les lois, évidemment, dont l'efficacité tarde à se faire sentir, l'éducation des plus jeunes, mais l'ABCD de l'égalité a été abandonnée, l'humour. On connaissait les tumblers pour dénoncer les sexismes de tout poil, plutôt viril d'ailleurs les poils. Sur internet, des femmes et des hommes relaient toutes les petites phrases sexistes entendues au boulot, dans la rue, à la fac, au lycée, au collège. Y a-t-il une menace sur les droits des femmes? Comment les pérenniser et les faire progresser? On attend vos points de vue, vos expériences de sexisme, vos attentes, vos combats, 01 45 24 7000, sur Twitter, hashtag grandbiennousfasse et sur notre mail grandbiennousfasse@radiofrance.com.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Thomas Chauvineau.
J'estime qu'il y a encore énormément à faire, car tous les droits sont acquis abstraitement sur le papier, mais il reste à réaliser ces droits. Et par exemple, je lisais aujourd'hui dans le journal, il y a 60% de femmes oisives contre seulement 20% d'hommes oisifs. Par conséquent, une immense différence dans l'emploi économique des femmes. Je suis absolument convaincue que c'est absolument la base de toutes les autres revendications possibles, qu'une femme n'a ses droits politiques véritablement concrets, c'est sa liberté d'être humain, sa liberté intérieure même, enfin tout, que si elle a l'autonomie économique. Pour moi, c'est fondamental et les femmes ne seront réellement émancipées que lorsqu'elles réussiront toutes à travailler.
Simone de Beauvoir, lors du congrès de Copenhague sur l'émancipation de la femme, c'était le 19 avril 1960. Trois invités pour débattre aujourd'hui de cette question. Marie Servetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, directrice également d'un centre d'hébergement et de réinsertion, FIT, un femme, une toi. Corinne Narasiguien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du PS, vous consacrez à ces questions. Et Caroline Lumet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal Grazia. Simone de Beauvoir employait le terme, l'adjectif « acquis » pour les droits des femmes. Est-ce qu'il vous semble acquis, Marie Servetti?
Eh bien écoutez, clairement, non.
C'était la réponse à laquelle je l'attendais, figurez-vous.
Hein, elle n'est pas, évidemment. Et c'est tellement pas acquis. Vous avez cité tout à l'heure beaucoup de choses dans votre introduction qui sont tout à fait justes. Et je suis venue quand même avec des chiffres parce que on a à lutter aujourd'hui contre une illusion de l'égalité. On a toujours quelqu'un qui dit « mais non, enfin quand même, mon copain il fait la vaisselle, il va chercher les gosses ». Bien sûr, on a tous un copain qui, lui, n'est pas dans les stats. Mais sauf que les stats, ça reste quand même 80% des tâches ménagères sont assumées par les femmes. Ça, c'est une réalité. On a, par exemple...
C'est-à-dire 3 heures à peu près pour les femmes, 2 heures pour les hommes.
Exactement. On parle aussi, on parlait là d'économie avec Simone de Beauvoir, mais il y a aussi la représentation politique. En France, 16% des maires sont des femmes. 16%. C'est un truc de fou, on est au 21e siècle, 16%. Donc voilà, il y a des choses qui sont terrifiantes, comme ce type de chiffres. Je voudrais rappeler que le budget du ministère des droits des femmes, hein, c'était 0,006% du budget de l'État, alors que les femmes ne sont pas une catégorie, c'est 50% de la population. Donc
certes, mais on pourrait vous objecter, et je pense que Corinne Narasiguien, qui est porte-parole du Parti Socialiste, va le faire, mais qu'un ministère des droits des femmes, bah, on ne l'avait pas vu depuis 1981.
Oui, c'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup, je crois, dans ce quinquennat pour le droit des femmes. Il y a encore beaucoup à faire, bien sûr, mais ça avait été abandonné dans les quinquennats précédents. On ne se préoccupait plus du droit des femmes. Donc aujourd'hui, on a de nouveau une représentation au gouvernement, un budget, même s'il est faible, mais pour s'occuper spécifiquement des discriminations faites aux femmes sur les questions des violences domestiques, sur les questions de la lutte contre les discriminations dans le travail. Je sais qu'il y a un dossier de France Stratégie qui est sorti il y a quelques mois, qui montre que dans le travail, la première discrimination, c'est le sexisme avant le racisme. Donc on sait bien que malgré les progrès qu'on a pu voir dans le monde économique, ça reste, les plafonds de verre existent.
Oui, et puis il y a un rapport qui a été publié assez récemment par le laboratoire de l'égalité, qui justement scrute l'égalité homme-femme, oui. et qui sur le quinquennat, pardon de le dire, a un point de vue très mitigé. C'est-à-dire qu'il y a certes des lois qui ont été votées, on pense évidemment à celle du 4 août 2014 entre l'égalité sur l'égalité entre les hommes et les femmes, mais quand on regarde dans les faits, évidemment il y a des parités chiffrées, mais par exemple sur les listes, c'est majoritairement des hommes qui occupent les têtes de liste, les attributions des compétences dans les exécutifs locaux, c'est très stéréotypé, c'est-à-dire en gros on propose à la femme de s'occuper soit de l'éducation, soit du social,
de l'économie. Moi je conteste pas effectivement ces progrès qu'il y a encore à faire. Alors la loi de 2014, elle est beaucoup plus large, c'est pas uniquement sur la représentation politique, c'est pour le droit des
fédérations de commerce, les fédérations sportives, etc.
Voilà, dans à peu près toute la société française, on sait très bien malheureusement que si on n'agit pas par la loi en France et même ailleurs d'ailleurs, ça n'avance pas tout seul. Et donc il faut passer par la loi. Après, il y a effectivement la question de l'application effective de la loi, et c'est vrai que il faudrait peut-être réfléchir à la parité sur les têtes de liste et pas uniquement sur la composition des listes.
Est-ce qu'un gouvernement de gauche aurait pu faire plus au cours de ces 5 années écoulées ?
Je crois qu'on a fait beaucoup et qu'il faut continuer. Il faut continuer à construire ce qui a été fait, il faut continuer à faire évoluer les mentalités, parce que ça touche toutes les classes sociales, mais ça touche aussi toutes les générations. Moi, je suis ingénieure en télécommunication, je travaille dans le privé depuis longtemps, dans des domaines haute technologie où il y a beaucoup de jeunes, et en fait le sexisme est le même, et peut-être parfois même encore plus élevé dans ces milieux-là qu'ailleurs. Et donc on voit bien que le travail, les acquis ne sont jamais véritablement acquis, que c'est un combat permanent.
Caroline Lumet, bonjour.
Oui,
vous
bonjour.
Êtes journaliste à Grazia. Les combats sont toujours à mener, rien n'est jamais acquis.
Ah oui, absolument. Rien n'est acquis. Et on voit, pour rebondir sur l'application des lois, en effet, on a tout un éventail de lois. Je pense par exemple à la loi Copé-Zimmermann qui demandait à ce que 40% des conseils d'administration et qui devait être entré en vigueur au 1er janvier 2017. On en est très loin. Je sais que c'est un sujet qui a été longuement débattu au forum de Deauville, le Women's Forum, où il y a un petit peu tous les grands patrons et les petites patronnes de ce monde. Beaucoup de patronnes, il y avait quand même 94% de femmes.
D'où le nom, voilà.
Et l'exemple ne vient pas, en fait. Et on se demande, c'est joli tout cet éventail, mais à quand une vraie mise en application? Mais je pense que c'est un problème global de la France.
Un problème aussi de société. Et Thibaut de Saint-Maurice, philosophe et chroniqueur de Grand Bien nous fasse et vous fasse, est là également. Bonjour Thibaut.
Bonjour Thomas.
Et il est 10h15, dites-moi, c'est déjà l'heure de votre chronique.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou, dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas.
Et puisque l'on parle des droits des femmes dans votre petite philosophie des marques et de la communication, vous vous penchez, Thibaut, ce matin sur les fémines.
Nous sommes des terroristes pacifiques. Oui, des terroristes, mais pacifiques. Lorsque l'on s'en prend à la liberté des femmes, le fémines est toujours là pour protester avec leur voix, leur corps dévêtu, ce sont des armes nues. Et bien sûr, nous allons essayer de continuer à les aider. Et nous allons continuer notre combat pour la liberté des femmes, qu'elles soient des Pussy Riot ou des femmes arabes.
Voilà Thomas, j'avais envie donc de vous parler des fémines parce que c'est un peu devenu une marque, les fémines, un peu la nouvelle marque du féminisme militant, avec donc une image de marque qui s'est imposée très rapidement, des actions radicales, provocantes, excessives parfois, mais toujours présentées comme des réponses à des inégalités, des injustices ou des insultes à l'encontre des femmes. Alors le mouvement est assez récent, il s'est lancé à partir de l'Ukraine en 2008 et il s'installe en France entre fin 2011, début 2012. Le mode opératoire est assez simple et connu, les militantes interviennent de façon surprise, seins nus, avec un message peint directement sur le corps et le plus souvent des fleurs dans les cheveux. Bref, de quoi donner justement des images qui feront ensuite le tour de la presse.
Le mouvement Femen, c'est donc à la fois un mouvement militant, mais aussi une stratégie de communication, Thibault.
Exactement, c'est sa particularité. Les deux sont absolument indissociables, selon le bon vieux principe que rien ne sert de faire si l'on ne fait pas en même temps savoir que l'on fait. Et avec cette idée aussi, finalement, qu'une image aujourd'hui a plus d'effet qu'un long discours. Alors, le mouvement Femen, c'est la parfaite rencontre du féminisme, du happening et de la publicité. Mais ça ne fonctionne aussi bien que parce que ces militantes ont fait un choix assez paradoxal, celui de se mettre à nu pour être plus forte. Les Femen utilisent, on l'a entendu, comme une arme, hein, leur corps et précisément leur sein, le signe de cette féminité de leur corps, comme une arme. Alors pour expliquer ce genre de paradoxe, la philosophie en général, et Hegel en particulier, utilise un gros mot. Alors ce gros mot, c'est le mot de dialectique. Voilà, la dialectique, c'est une certaine manière de penser la contradiction, de penser l'opposition paradoxale pour en révéler une sorte de mouvement intime et enrichir donc notre compréhension de la réalité.
Alors après la dialectique de Hegel, voici donc la dialectique des Femen.
Voilà, alors ça marche toujours pareil, hein, de façon dynamique, tout en mouvement. Le féminisme se bat notamment, hein, contre la domination et l'instrumentalisation du corps des femmes. Du coup, se servir du corps et singulièrement du corps nu comme d'un outil de revendication, eh ben ça peut paraître contradictoire. En effet, quelle différence entre ces images de Femen au sein nu et puis ces femmes dénudées que la pub nous représente, hein, pour vendre à peu près n'importe quoi. En fait, dialectiquement, les deux images n'ont rien à voir. L'usage de la nudité par les Femen relève du retournement du rapport de force. Le corps dominé s'assume totalement, se libère donc de la domination et devient au contraire un signe de force. Alors Hegel a modélisé ce type de retournement, ce genre de surprise de la réalité, à travers sa fameuse dialectique du maître et de l'esclave. L'un n'existe pas sans l'autre, nous dit Hegel, et cette interaction réciproque, elle finit par profiter à l'esclave en lui permettant de se libérer. Alors pourquoi ? Parce que c'est justement en travaillant pour son maître que l'esclave développe des compétences, apprend l'autonomie et retrouve finalement sa liberté. Pour le dire autrement, la logique de la réalité n'est pas un long fleuve tranquille qui s'écoule de façon linéaire, c'est plutôt un ensemble de rapports de force qui s'opposent et qui interagissent entre eux. Les Femen luttent pour libérer le corps des femmes en utilisant leur corps, et ce faisant, elles en montrent effectivement déjà à chacune de leurs actions toute la liberté. Alors ça ne veut pas dire que les Femen ont toujours raison, ça veut simplement dire que dans le juste et nécessaire combat féministe, la force des Femen, c'est d'avoir compris que la réalité supporte la contradiction et que la liberté commence toujours par une libération fracassante, libération qu'il faut ensuite effectivement garantir par des lois et des droits.
Et ceci, Thibault de Saint-Maurice, philosophe, ceci alors que Yana Zadovna, la première Femen à avoir été condamnée pour exhibition sexuelle, vient d'être relaxée, condamnée en revanche pour une dégradation d'une statue de cire de Vladimir Poutine. Les Femen, dans cette posture militante, est-ce que, pour pérenniser les droits des femmes, ça fonctionne, selon vous, Marie Servetti?
Mais oui, les mouvements féministes ont toujours été divers, multiples, et tant mieux qu'ils le soient. Donc, tant mieux qu'elles s'expriment comme ça. Mais puisqu'on a un philosophe parmi nous, et que je suis venue avec plein de chiffres, hein, avez-vous une idée de, dans les manuels scolaires, du pourcentage des femmes dans les manuels scolaires en philosophie?
En philosophie, c'est très faible. Hein.
C'est pire que très faible, c'est 0%.
Ouais. Thibault de Saint-Maurice est professeur de philosophie.
Voilà, 0%.
0%?
0%.
Thibault, alors, vous allez bien nous citer une femme
travail,
philosophe.
C'est, bien sûr, on connaît tous et toutes des femmes philosophes. D'ailleurs, on vient d'en entendre une, Simone de Beauvoir. Mais dans les manuels scolaires, ce n'est pas le cas. C'est 0%. Et donc, il y a une étude passionnante du Centre Hubertine Auclert qui a fait cette étude sur les manuels scolaires en France. Et on se rend compte que la place des femmes est absolument dérisoire. En littérature, par exemple, c'est 3%. Voilà. Donc, comme on parlait sexisme, et après, bah, évidemment, les Femen, tant mieux qu'elles puissent s'exprimer de cette façon, tant mieux qu'il y ait un féminisme aussi un peu institutionnel qui permet de faire avancer les choses. Et pour revenir à ce que disait tout à l'heure, Corinne.
Nara Siguin, qui est porte-parole.
Le ministère des droits des femmes, par exemple, et il a duré 2 ans comme ministère de plein exercice.
Qui était représenté par Najat Vallaud-Belkacem.
Exactement. Et à chaque fois qu'on parle des lois qui sont passées durant ce quinquennat, eh bien, on parle de ce moment-là, de 2012 à 2014. Et on a bien vu que, à partir du moment où ça a été un ministère avec beaucoup plus de choses à faire, et après, il y a aussi un secrétariat d'État, ben c'est beaucoup plus compliqué d'avancer. Voilà. Donc, l'une des premières choses pour essayer d'améliorer la situation, c'est vraiment d'imposer un ministère de plein exercice des droits des femmes.
Je regrette effectivement qu'on n'ait pas gardé un ministère de plein exercice. Ceci étant dit, Pascal Boittard et Laurence Rossignol ont continué le travail avec beaucoup d'énergie et on leur a gardé la même feuille de route.
Mais avec un secrétariat d'État, ce qui est quand même bien moins important qu'un ministère. Avec un secrétariat d'État
au sein d'un ministère qui reste quand même un ministère très puissant avec beaucoup de moyens.
Les droits des femmes sont-ils menacés ? Oui. Quelles sont les solutions pour améliorer, voire même changer radicalement la situation ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui jusqu'à 11h. Vous êtes bien sur France Inter. Quelle heure est-il ? 10h22.
Thomas Chauvineau sur France Inter.
Découverte France Inter, s'il vous plaît, en 2012, Laura K.N. qui depuis continue son chemin, Froid, c'est le titre. Extrait de ce tout premier album qui devrait sortir dans quelques jours. L'équipe de Grand Bien vous fasse, Alexia Rivière, Claire Destacan, Jérôme Boulet, Clara Marliot, à la technique Mehdi Fata et Gaël Braouzek. Et puis Jean Seznec, notre stagiaire de troisième, la fameuse semaine avant les vacances. Beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles dans les locaux de France Inter cette semaine. La France de demain, eh ben, c'est Jean qui veut être diplomate. Tous nos vœux de réussite.
Grand bien vous fasse. Thomas Chauvineau.
Donc voilà, moi c'est Joséphine, 24 ans, 1m78, et je devrais pas vous le dire, mais depuis 3 ans j'habite avec Brad Pitt. Bon ok, en vrai j'ai 29 ans 4 quarts, je fais 1m59 et Brad Pitt, c'est mon chat. J'ai pas de mec, je suis au régime à partir de ce soir. Dans l'absolu, je me trouve plutôt pas mal. Je me trouverais même parfaite si j'avais pas un léger problème de proportion, comme dirait ma mère.
C'est la vie.
Bande d'obsédés, règle numéro 1, ne jamais répondre favorablement à un compliment dans la rue. Règle numéro 2, yes Chloé, toujours sans vanter. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'arrête pas de me faire draguer.
On sent le traitement hein, avec humour du sexisme dans cet extrait du film Joséphine avec Marie-Lou Berry, une adaptation de la bande dessinée de Pénélope Bagieu. On entendra d'ailleurs tout à l'heure Pénélope Bagieu au cours de l'émission. L'humour, c'est aussi une façon de lutter contre le sexisme. Je pense à tous ces tumblers qui existent. Caroline Lumet, vous êtes journaliste à Grazia. Alors le premier a été Paytachnek, mais aujourd'hui on trouve Paytafac, Paytonbahut, puisque ça existe aussi évidemment au lycée, au collège, où des hommes, des femmes, surtout des femmes, rapportent les propos les plus sexistes gestes auxquels elles peuvent être confrontées au cours de leur journée.
Oui, oui, je pense que l'humour est une façon de répondre sans agressivité.
Ce qu'on trouve sur Internet, hein, ce qu'on
tout
met
à fait.
Sur Internet.
Sur Internet, mais aussi dans les médias. Je pense, nous, à la chronique de Sarah Constantin, qui est une fémène, d'ailleurs, par ailleurs, dans les pages de Gradia, et qui arrive toujours avec un petit trait d'humour à dénoncer des agressions ou des... À défendre ses positions féministes. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit des Tumblr. Par exemple, je me souviens un moment sur la rue. La rue qui est définitivement pas un lieu féminin. C'est l'endroit où 100% des femmes ont eu une agression verbale ou
des urbanistes
physique.
Et des géographes commencent à réfléchir à comment concevoir une ville et des rues où la parité existerait, parce que pour
2017,
l'instant, c'est vraiment pas en effet un lieu mixte. Alors moi j'ai lu une phrase, je dis pas ça parce que Thibaut de Saint-Maurice enseignant est là, mais il se trouve que c'est un enseignant qui dit ça, c'est sur le Tumblr paye ton bahut, un enseignant, un prof de philo. Mon cher Thibault, qui dit « Vous, les femmes, depuis le Moyen-Âge, vous êtes des assistées. C'est bien dommage que cela soit en train de changer. » C'est quand même incroyable, en effet, en 2017, d'entendre ce genre de choses. Je ne vous demande pas, évidemment, Thibault, d'excuser ce type de comportement, mais j'imagine que dans l'éducation nationale aussi, il y a de ça.
Il y a de ça, et surtout qu'il y a en plus une situation un peu paradoxale dans l'enseignement du primaire ou du secondaire, c'est que les enseignants sont aujourd'hui majoritairement des femmes, et quand on est un homme dans une salle des profs, en fait on est en minorité dans le primaire et dans le secondaire. Et alors peut-être que, alors je sais pas du tout pour excuser, mais ce genre de propos est totalement inexcusable. Enfin, c'est juste de la bêtise, quoi. Voilà. Et c'est faux, c'est de la bêtise. Mais il y a une situation inversée qui peut parfois tendre un peu les relations avec d'ailleurs des élèves femmes, enfin des jeunes filles comme des jeunes garçons. Et c'est une situation un peu particulière dans l'enseignement aujourd'hui. C'est que en réalité, il y a des élèves, par exemple, qui tout au long de leur scolarité seront confrontés majoritairement à des enseignants qui seront majoritairement des femmes. Or, si on est militant de la parité, comme par exemple moi je peux l'être, je pense qu'il faut se soucier aussi d'un équilibre de ce point de vue-là. Il y a des élèves qui, de la sixième à la terminale, auront à chaque fois sur une équipe de profs de 7 ou 8 profs, ils auront à chaque fois 7 ou 8 femmes. C'est pas le problème qu'elles soient des femmes, c'est le problème que là encore l'absence de parité crée un déséquilibre. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme dans l'enseignement c'est inversé, ça permet du coup d'être convaincu qu'il faut bien de l'équilibre dans tous les cas.
Sur franceinter.fr, cette réaction de Sylvie qui nous écrit: un politique m'a dit un jour que j'étais nuisible à la société parce que je ne me reproduisais pas, je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, nous dit Sylvie. Ce même politique a ajouté que je prenais l'emploi d'un homme. Oui, je dirigeais à l'époque une agence de presse photo et un ancien procureur général de la République m'a dit qu'il ne m'aiderait à trouver la vérité que si je passais entre guillemets du bon temps avec lui. Et tant d'autres anonymes m'ont dit encore des choses moches, 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 nous dit Sylvie. Il y a une affaire assez récente qui a eu lieu récemment à Lille dans une université. Elle a eu lieu, enfin il y en a eu une autre similaire au Havre. C'est un enseignant qui dit à propos d'un micro qui ne marche pas: c'est comme pour les femmes, il faut taper dessus deux fois pour qu'elles comprennent. Un professeur de droit à Lille 2. Alors, le président de l'établissement s'indigne en disant que l'enseignant a manqué de discernement face à un public d'étudiants. Mais l'enseignant lillois répond, lui, qu'il y a eu une réaction disproportionnée. Et il y a d'ailleurs des gens qui le soutiennent en disant: mais ça va, c'est de l'humour. Qui a raison dans cette histoire-là, Corinne Nassarigan, vous qui vous occupez, de ces questions au PS?
Je crois que... moi, je veux pas juger l'humour que chacun peut faire dans le privé, mais quand on est dans une position comme celle-là, d'être un enseignant, un professeur devant des élèves, c'est inadmissible de tenir ce type de propos, parce que on est un modèle, on est regardé, on est écouté, on est là pour transmettre des valeurs, et donc il faut faire attention. Je pense que l'humour, ça peut être une arme absolument redoutable. Je pense que on peut rire de tout, mais ça dépend. Il faut pas que l'humour soit utilisé pour excuser du sexisme, du racisme. Il y a dans le droit français des limites à la liberté d'expression qui concerne aussi l'humour. On l'a vu sur les questions de racisme, d'antisémitisme avec Dieudonné, par exemple. Je crois qu'il y a des limites à poser quand on est dans une position où on a un public.
Nous sommes au téléphone avec Luce. Bonjour, Luce. Luce, vous êtes avec
oui,
nous.
Bonjour.
Bonjour, vous nous appelez de Lyon. Bonjour,
oui,
Luce.
Tout à fait.
Vous vouliez intervenir?
Alors, moi, je voulais intervenir sur un sujet qui est l'IVG et les manifs IVG. À Lyon, on a des gros départs de manifestations. On est dans une ville, on va dire, de ce point de vue-là, un peu conservatrice. Mais je donne à chacun le droit de manifester. Il n'empêche que j'ai été très frappée il y a 2 ans par une manifestation où, en réalité, c'était essentiellement des hommes qui étaient là avec des poussettes pleines d'enfants, en plein milieu de l'après-midi, et qui ont manifesté contre l'IVG, alors pour la vie, hein, comme on dit maintenant, mais qui est aussi surtout contre l'avortement. Et j'ai été vraiment frappée parce que...
Ah, on est en train de vous perdre...
J'ai dit que c'était vraiment... Luce, porté le débat.
Nous, en fait, la communication, vous avez dû vous déplacer, vous savez, hein, ces histoires de réseau, voilà, on vous entendait très bien, on vous entend plus, mais on peut en effet parler de ces histoires d'IVG et de voir aujourd'hui comment, notamment Sens Commun, hein, qui est affilié aujourd'hui au groupe Les Républicains, plutôt proche de François Fillon, pour l'instant le candidat à la présidentielle, comment aujourd'hui ce débat qu'on croyait... terminé, est revenu sur le devant de la scène. Marie Servetti, vous êtes membre, je le rappelle, du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Oui, donc on a fait un gros travail aussi sur l'IVG. Et là, on a vu cette photo qui circule partout de Trump qui signe des décrets sur l'avortement entouré exclusivement d'hommes. On a vu, dès que Rajoy est arrivé en Espagne, que l'une des premières choses qu'il a décidé, c'était de contraindre l'IVG et de l'encadrer bien sévèrement. Et on voit en effet qu'en France, eh bien, on prend la même direction. Et moi, j'ai lu des déclarations de Fillon où il a bien conscience que s'il touchait ce droit, on serait toutes dans la rue et tous dans la rue. Et donc, il explique qu'il faut faire, en fait, de la pédagogie à long terme, quoi. Donc, évidemment, ce droit est tout le temps menacé. Et pourquoi il est menacé? Parce que la liberté des femmes de choisir avec qui, quand elles veulent un enfant, la pilule, c'est le cas de le dire, n'est jamais franchement passée. Donc,
et pourquoi, à votre avis?
Mais parce que c'est ça la domination des femmes. C'est-à-dire que si demain, enfin, et comme on l'est aujourd'hui, on est maîtresse de la destinée de l'humanité, on peut très bien décider demain de plus du tout de faire d'enfants, et ben c'est fini, on n'existe plus. Donc il faut pouvoir maîtriser ça, et puis de tout temps, Françoise Héritier l'a bien montré, le fait que les femmes aient ce pouvoir absolument colossal est totalement terrorisant pour les hommes qui, évidemment, comme on le sait à ce jour, ne l'ont pas.
Ça m'évoque une phrase de Simone de Beauvoir qu'on écoutait en début d'émission qui a dit « Personne n'est plus arrogant envers les femmes, plus agressif ou méprisant qu'un homme inquiet pour sa virilité ». Caroline Exactement. Lumet, journaliste à Gradia.
Oui, vous parliez tout à l'heure justement de est-ce que nos acquis sont vraiment acquis? Bah, la preuve que non. On voit que le débat de l'entre-deux-tours de la primaire républicaine s'est fait quand même sur l'IVG. Vous parliez de Trump qui a nommé donc son vice-président pro-life, le juge de la Cour suprême qui a été nommé.
Enfin, les États-Unis, ce n'est pas la France.
Non, les États-Unis ne sont pas la France.
On peut aussi le rétorquer.
Tout à fait. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a encore un gros travail à faire là-dessus. Le délai pour avoir un rendez-vous dans un planning familial ne cesse d'augmenter. On se retrouve. Il y avait un moment justement, je me souviens, où quand on faisait les recherches sur Google, il y a eu un pléthore d'articles à ce sujet. Le premier site qui venait en haut, c'était un site pro-life parce que il y avait de l'argent derrière. Donc on sait pour le coup que c'est un acquis. Qui est encore à défendre aujourd'hui et constamment.
Sachant qu'une loi vient d'être votée, enfin en tout cas elle est passée la semaine dernière à l'Assemblée nationale, destinée justement à étendre le délit d'entrave à l'IVG au numérique. Corinne Nassarigan.
C'est sûr que les États-Unis c'est pas la France, mais en même temps je crois qu'il y a des vases communicants qui sont assez inquiétants. On l'avait déjà vu au moment de la manif pour tous, parce que la bataille contre le mariage homosexuel, c'était aussi une question de droit des femmes. C'était aussi la conception qu'on a de la famille et du rôle genré de l'homme et de la femme dans le couple. Et je crois que c'est parce que ça remettait ça en cause que ça a beaucoup bousculé, certes, les conservateurs, même les réactionnaires de ce pays. On a vu, moi j'ai vécu très longtemps aux États-Unis, j'ai vu pendant toutes ces années où j'ai vécu là-bas, toutes les façons qu'on peut avoir de limiter le droit à l'avortement sans revenir sur l'autorisation fédérale. C'est-à-dire que effectivement, on donne pas les moyens aux plannings familiaux d'aider les femmes qui en ont le plus besoin. On met des normes impossibles sur les cliniques qui peuvent effectuer des avortements pour qu'il y en ait de moins en moins. On ne rembourse plus, etc. Donc il y a d'autres manières d'entraver, de limiter l'accès à l'avortement, et ça va toucher forcément les femmes qui sont le plus dans des situations de fragilité, en particulier de fragilité économique. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi, le délit d'entrave, l'extension du délit d'entrave, c'est ce qui se passe en France, c'est la copie conforme de ce qui se fait aux États-Unis depuis 10 ou 15 ans. Et donc il faut être bien attentif.
On importe, vous voulez dire.
Ah oui, voilà, il faut être attentif au fait que les mouvements réactionnaires se parlent entre eux à travers le monde. Ce qui s'est passé en Pologne, ce qui se passe, ce qui a pu se passer dans, ce qui peut se passer aussi en Italie, ce qui peut se passer dans d'autres pays, c'est tous ces gens-là se parlent entre eux et regardent ce qui fonctionne.
Justement, l'avortement a été remis en cause.
Voilà, donc ils regardent ce qui fonctionne et ils essaient de reproduire en s'adaptant au code de leur propre pays.
Sur franceinter.fr, Marie nous écrit aujourd'hui « Je pense qu'il est essentiel d'éduquer les hommes et les garçons grâce aux méthodes de l'éducation populaire pour que l'empathie fasse partie de leurs valeurs. Alors ensuite, ils pourront comprendre ce qu'ils font vivre aux femmes du fait de leur classe dominante. » 10h38 sur France Inter. On se demande donc ce matin, dans Grand Bien vous fasse, si les droits des femmes sont en danger. Une question qu'on se pose hein, aussi avec vous, 01 45 24 7000 sur Twitter avec le hashtag Grand Bien vous fasse et pas Grand Bien nous fasse comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et notre mail, c'est Grand Bien vous fasse @radiofrance.com. À suivre, le reportage d'Antoine Lee, qui a rencontré une femme qui fait beaucoup pour évoquer les combats d'autres femmes. C'est l'illustratrice Pénélope Bagieux. Ce sera juste après A Tribe Called West. Candle box with a capital G, ball in the beat. Status Chris Paul or John Wall in the league. Grab a mic till the knuckles will bleed. Cause I believe the potent and the potent have you geek like speed. If rationale is natural, I will weave. It's all edges and peace. Setting press free on a permanent steeze. I'm in the world where my princess is Leia. Ain't she feeling my Vader? And my lore grows greater and greater. Pim trails dropping poisonous vapors. Have you shaking like Gator? Been chill, nigga, process data. Blu-ray wave, follow up beta. I DVR later. Cop a massa with a G, I'm a waiter. You can't define us X, Y, Z, Z. It's a generational elitist. Have you cheating virtual think pieces? See these written words from poetical science. Brains defiant, thoughts heavy, baby. They're a major appliance. Leave a tad when dropping to flyness. Do a giant dude's nice. He tight screwed in with some pliers. Cool with some buyers. Yeah, nigga, cool with some growers. Never know tattletales, only I don't know us. Be a show me generation. Show us what you gon' show us. So listen, mommy. See, we could collude with a boy. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins. Shoot them boys, versed and rehearsed in the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole, gatekeepers afloat. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. One hit and reading pages of Poe. Telly is low, cuddle bunny ready to go. Day of the dead,
bury all the zombies instead.
And it's just your aftermath, buster cutting hey, your yeah. dreads.
Bruce Lee and niggas, Ryo niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB.
Surge pricing on these Ubers, I'ma get me a cab.
Yo, where'd you be at?
Arriving on impeccable grass, I be in NYC waiting for that law to pass.
Cash it, been waiting for a Jets title since last. Richard Todd, Bowles, gangrene on that ass.
Magic Mike on the mic, David Blaine Douglas, Henning.
In the church, you bust the rhymes, it's my sermon, you get it. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your witness. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin unforgiven. Like how we be skipping on bees like cooking crack in the kitchen.
Wait, just start the package, dry it, bag up the wet. This man city's not a game, easy, quiet, on set.
Fight, student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a trend, I swept up in a phase. We still the highest of commodity grades. And you can get it, get it, get it, get it, get it today.
Yeah.
Extrait du dernier album des New Yorkais Tribe Called Quest, et pas West comme je l'ai dit, vieux de la vieille du hip-hop. Le groupe s'est formé en 1985 et toujours là. Alors rien que pour ça, on peut leur tirer notre chapeau. Le titre du morceau, c'est This Generation, et toute la programmation musicale de l'émission est bien sûr à retrouver sur le site franceinter.fr.
Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Je râle après mon mari parce qu'il fait rien. Il part le matin de bonne heure, il se trouve toujours un truc et il rentre le soir tard. Quand tout est prêt, les petites bougies sont sur la table, le repas est fait, et voilà.
Non, mais de temps en temps, je m'y mets. Hein. Ça arrive que je fasse le ménage. Mais j'ai d'autres travails, chacun son travail. Hein. Moi, je suis toujours actif.
C'est une corvée, ça. Non seulement on travaille, mais il faut faire les courses, mes enfants, des devoirs, aller voir les professeurs et tout. Ah oui, alors là, c'est l'horreur.
Je fais tout, en fait. Ils se mettent pas dans la tête qu'ils ont deux bras, deux jambes, un cerveau. Pour pouvoir faire aussi l'aspirateur, le repassage, le ménage.
Si la femme travaille pas, bon bah il faut qu'elle s'occupe quoi. Hein. Donc c'est pas un souci qu'elle s'occupe de la maison dans ce cas-là quoi.
Ah, tu l'as bien cherché, celle-là. Trois invités aujourd'hui pour évoquer les droits des femmes et les acquis qui sont pas toujours acquis avec nous sur le plateau de Grand Bien Vous Fasse. Corinne Nara-Siguin, donc porte-parole du PS chargée de ces questions. Marie Servetti, qui est membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Et Caroline Lumet, qui est journaliste à Gradia. Alors, les tâches ménagères, on les a déjà évoquées, on leur a fait un sort. En effet, vous l'avez dit, Marie Servetti, 80% des tâches sont faites par les hommes, par les femmes. C'est un vœu pieux que je suis en train de dire là. Puisque vous aimez les chiffres, Marie Servetti, on peut aussi en trouver d'autres. Il se trouve que, par exemple, dans la représentation des femmes à l'écran, c'est 36% contre 64% pour les hommes. Même chose pour les expertes qui sont interviewées dans les médias, c'est autour de 20%. On est à un peu plus à 29% sur Radio France. Là encore, comment on peut l'expliquer, Marie Servetti ?
Eh bien, parce que, enfin, en tout cas, c'est mon explication, c'est que on parle à partir de sa place. Et donc, sachant que c'est encore les hommes qui sont majoritairement les dirigeants de pratiquement toutes les sphères de décision, il est logique d'appeler Marco plutôt que d'appeler Brigitte, parce que son univers, c'est plutôt Marco. C'est un petit peu pareil quand on est une femme blanche et que on connaît plus de femmes blanches que de femmes noires. Et donc, ça demande un effort pour se dire non, on va pas être que des femmes blanches à cette réunion, il faut qu'on fasse cet effort. Et nous les femmes, on fait un peu plus, on est un peu plus consciente de ça pour mixer un peu nos groupes. Et le groupe humain dominant, bah évidemment, qui parle de sa place et que donc il pense pas à inviter des femmes. Et même quand il invite des femmes, on se rend compte que eh bien, elles vont traiter de sujets moins complexes que ceux des hommes. Voilà. Donc, comment ça s'explique ? Et moi, ce que je tenais à dire quand même depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a en France aujourd'hui une espèce de tendance malheureuse à vouloir stigmatiser des parties de la population. Donc, par exemple, l'espace public, eh bien, on est empêché, les femmes, d'y participer dans tel ou tel endroit parce que ce sont les musulmans qui nous en empêcheraient. Mais en fait, quand on regarde les chiffres et quand on entend là ce que vous venez de passer, on se dit c'est fou quand même de trouver un bouc émissaire à ce point-là. Et donc vraiment ça, je tenais à le dire aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec cette illusion de l'égalité des bons français chrétiens qui eux seraient tous des gens tellement émancipés et tellement combattants pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et que ce serait vraiment cette communauté minoritaire de musulmans qui nous empêcherait d'accéder au café, au pouvoir, aux médias, etc. Donc ça, c'était important de le dire aujourd'hui parce que on se cache toujours derrière des arguments qui finalement nous empêche d'avancer.
Et fallacieux qui
et
plus
fallacieux,
est.
Exactement.
Une possibilité, une solution en tout cas pour en sortir, c'est ce guide qui existe déjà depuis quelques années, les expertes.eu, le guide des expertes dont Radio France d'ailleurs est partenaire. Est-ce que c'est un guide dont vous vous servez, par exemple Caroline Lumet
à Gradia
quand vous voulez trouver une experte plutôt qu'un expert?
Absolument, on l'a découvert un petit peu par hasard il y a quelques années quand justement, parce que nous c'est quelque chose qu'on essaye vraiment absolument de faire, c'est d'interviewer plutôt des expertes féminine, donc. Et du coup, on utilise ce guide et je dois dire qu'on a même conseillé à plein de collègues qui travaillent maintenant au Monde, au Figaro, à Libé. Et c'est vraiment un effort, comme disait Marie, c'est vraiment un effort qu'on fait et qu'il faut faire et qu'on voit.
Qu'on fait dans un journal, mais parce que vous êtes...
J'allais vous dire, parce qu'on a un journal féminin.
Est-ce que vos collègues aussi le font
de plus en plus, parce que et finalement, le journalisme également est en train de s'est féminisé déjà. Et donc, en tant que journaliste, en tant que femme, c'est un combat à mener et qu'on mène. Et on voit que de plus en plus de collègues, en tout cas de ma génération, font cet effort d'aller chercher plutôt une femme à interviewer. Et pas que sur les sujets féminins, pas que sur le droit des femmes, sur la politique, sur l'économie... sur la géopolitique, et je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer, en effet.
Ça viendra, question de représentation. Donc nous allons maintenant parler d'une artiste qui défend le droit des femmes avec ses feutres et ses crayons, c'est Pénélope Bagieu. Elle vient de publier le tome 2 de sa BD Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. C'est 15 portraits de femmes, plus ou moins célèbres, qui ont décidé de prendre leur vie en main et de se confronter aussi au monde des hommes. Une rappeuse afghane, par exemple, l'une des premières femmes flics qui jette les bases de la police scientifique, la première femme noire astronaute, donc une bande dessinée engagée. Pénélope Bagieu est allée mardi à la rencontre de son public pour une séance de dédicace dans une librairie parisienne et Antoine Lee, notre reporter, y était.
Bonjour. Dis-moi tout.
Moi, c'est Clémentine.
Clémentine, pour vous, Pénélope Bagieu pourrait être dans le tome 2 des culottés ?
Je pense, oui. Parce qu'elle a pris en main son propre destin.
Pénélope Bagieu, question un peu difficile, quel est votre personnage préféré dans ce tome 2 ?
Oh, je ne peux pas répondre, je les aime toutes. Celle qui m'a peut-être servi de point de départ, c'était Katia Kraft, la première volcanologue. Et puis après, je me suis rappelé que j'aimais vraiment beaucoup trop Peggy Guggenheim. Et puis après, je me suis dit, bon allez, il fallait vraiment que je trouve une solution. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée des culottés. Elles ont démarré avec la mauvaise main de départ, c'est-à-dire déjà en étant des femmes, ce qui souvent était compliqué. Et puis tout à un moment, elles ont dit, en fait ça suffit, je vais faire exactement ce que je veux, tant pis. Et en faisant ça, elles ont fait bouger les lignes pour tout le monde.
Est-ce que je pourrais avoir une photo ?
Oui, bien sûr.
Vous pensez quoi, vous, des droits des femmes aujourd'hui ?
Ah bah non, il y a encore plein de choses à faire. Hein. Qu'on juge les femmes sur leur physique, leur façon de s'habiller, je crois que c'est le truc qui m'énerve le plus. Parce qu'on n'a pas ça avec les hommes, quoi.
Ou l'âge, tout simplement l'âge aussi, de dire « Ah bah dis donc, elle a pris cher, elle est plus toute jeune. » Alors qu'on s'en fout quand c'est des hommes, ouais. Enfin, je suis d'accord avec toi. Hein.
Bonjour, c'est pour ma femme qui s'appelle Chloé. Comme elle ne pouvait pas venir, bah c'est moi qui viens chercher sa dédicace.
Vous, monsieur, vous faites quoi pour que votre femme soit votre égale ?
Je sais pas faire grand-chose au final. C'est pas moi de faire des choses, c'est à elle de décider pour elle au final. Sur un pied d'égalité, c'est tout.
Pénélope Bagieu, est-ce que quelqu'un comme vous a besoin encore de se battre en tant que femme pour se faire respecter ?
Mais bien sûr, j'aimerais que, par exemple... il soit admis que les femmes aient leur place dans la bande dessinée. J'aimerais qu'elles soient payées à la même hauteur que les hommes, puisque c'est amusant de voir que même dans la bande dessinée, on subit les mêmes problèmes. Les femmes sont statistiquement payées moins que les hommes.
Nous avons le grand plaisir et je dirais même le bonheur de recevoir aujourd'hui l'une des plus grandes dessinatrices que vous connaissez, que vous aimez, qui est évidemment Pénélope Bagieu.
Maintenant, j'ai plus souci de ne pas avoir d'exemple quand je suis dans une discussion. Avant, on me disait, bah alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les femmes ? Je dis, il y a Marie Curie, et puis...
J'adore. Bon, voilà, c'est tout, hein, il n'y en a pas d'autres.
Puis maintenant, j'ai plein d'exemples. Je peux sortir mon album et dire, voilà, elle.
Vous êtes fan ?
Oui, je suis très fan. J'ai commencé à lire ce qu'elle faisait depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 23 aujourd'hui, donc ça fait presque 10 ans.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis ingénieure en informatique. Oui, du coup, je suis un peu sensible à la question. J'étais dans une école d'ingénieurs, j'étais entourée d'hommes, et justement, le fait d'être dans un écosystème comme ça, où les femmes, c'est devenu normal qu'on soit 10% de filles dans l'école, laissait parfois certaines personnes dire certaines choses qui nous faisaient dire « Ah, en fait, oui, c'est vrai que c'est pas gagné, quoi. »
Pénélope Bagieu, dans l'histoire des femmes, il y a eu des victoires. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces victoires-là sont en train de disparaître ?
On doit rester vigilante et se battre contre des choses qu'on pensait acquises, en tout cas que les femmes de ma génération pensaient acquises, parce qu'on a toujours vécu avec, parce que pour nous il a toujours été complètement normal qu'on choisisse d'avoir des enfants ou pas, par exemple, qu'on choisisse de travailler. Et puis effectivement, ces droits-là, on découvre avec stupeur que des gens ont envie de revenir dessus et qu'il y aura toujours des gens pour essayer de se battre contre le fait de nous laisser des droits. Et donc il faudra toujours être vigilante pour essayer de les garder. Et puis aussi continuer à se battre pour en avoir plus des droits, tout simplement avoir les mêmes droits que les hommes. Voilà. Tant que ce ne sera pas acquis, il faudra être féministe.
Le reportage d'Antoine Lee avec Pénélope Bagieu, dont nous conseillons vivement la lecture du tome 2, Les culottés, c'est aux éditions Gallimard.
Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse, sur France Inter.
Grand bien vous fasse consacré aujourd'hui aux droits des femmes. Sont-ils acquis ou non, avec trois invités? Marie Servetti, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Corinne Narasiguin, qui est porte-parole du Parti Socialiste et chargée de ces questions. Et Caroline Lumet, journaliste à Grazia. Ce témoignage d'un homme qui nous arrive sur franceinter.fr. Jean Laurent, qui nous dit « ce n'est pas la femme qui doit devenir l'égale de l'homme, mais bien le contraire. L'état du monde aujourd'hui est le résultat de la gouvernance des hommes mâles depuis la nuit des temps, signé un féministe forcené et un homme au foyer. » Est-ce qu'il y a de ça aujourd'hui dans la marche du monde, cette idée que, en effet, Marie Servetti, ce sont les hommes qui gouvernent depuis, comme le dit Jean Laurent, la nuit des temps?
Ça, c'est une évidence, oui. Les hommes gouvernent, dirigent, dominent.
Mais c'est une évidence, mais ça va toujours mieux en le disant.
Oui, peut-être pas depuis la nuit des temps. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on peut fixer le moment où les hommes ont décidé qu'il fallait dominer. Sans doute, encore une fois, on en revient à notre possibilité, notre pouvoir de faire des enfants. C'est possible. Moi, ce que je voudrais aussi revenir sur une chose, c'est que tout à l'heure, on parlait de ce professeur d'université qui a tapé sur le micro en disant que c'était un peu comme les femmes, il fallait taper dessus. Et on pourrait pas faire cette émission quand même sans parler des violences machistes contre les femmes. Parce que là, on a beaucoup parlé de sexisme. Et c'est bien et c'est normal, parce que nous, on pense que le sexisme, c'est la première marche pour les violences machistes contre les femmes. Et puisque vous disiez que j'aimais les chiffres, en effet, je les aime.
Vous êtes arrivé avec vos chiffres au tout début
de l'émission. Vous avez raison, parce que les chiffres, on n'arrive jamais à les croire. Par exemple, on n'arrive pas à croire qu'une femme est violée en France toutes les 7 minutes. Et quand on dit ça, les gens disent « mais non, pas en France ». Oui, là, il y a une enquête qui a été faite sur vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, peut-être 17 000, 20 000, je ne sais plus, qui s'appelle Virage, qui a été conduite par l'INED. Et dans les 12 mois qui ont précédé cette enquête, 580 000 femmes en France ont déclaré avoir été victimes d'au moins une forme d'agression sexuelle. 62 000 femmes avaient subi, dans ces 12 mois, un viol ou une tentative de viol. Donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on voit bien que malgré des politiques qui ont tenté de faire des choses, les chiffres restent les mêmes. Et en 2016, je pense que le chiffre sera le même, une femme meurt tous les 3 jours des coups de son conjoint. Et donc ça, tant qu'on n'arrivera pas à faire en sorte de ne pas accepter ce type de déclaration de ce prof d'université, c'est vraiment ça, l'appel à la violence.
Nous sommes avec Pierre au téléphone. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Vous vouliez intervenir.
Oui. Alors, donc, ce que je vous avais dit à votre collègue, c'est qu'il y a les choses qui se prescrivent et les choses qui ne se prescrivent pas.
Vous êtes psy, hein, Pierre, je le précise. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire par là que je ne connais pas exactement toutes les lois qui devraient être notées noir sur blanc pour permettre à une protection de la femme. Donc ça, c'est un état des lieux que je ne connais pas exactement. Je connais les grandes lignes de protection, de lois pour la préservation de la femme. Il faut faire très attention effectivement au droit à l'avortement. Mais tout le reste, quasiment, c'est une notion de parité, d'éducation, qui devrait être déjà travaillée en amont chez les jeunes. Mmh. Et je ne sais pas si ça se fait. Donc, est-ce que c'est un problème de responsabilité éducative, alors qu'il n'est pas inhérent aux profs eux-mêmes, mais au système qui n'assure pas anthropologiquement des valeurs, et qui permettent finalement déjà d'endiguer beaucoup cette problématique de non-respect, de violence, de condescendance vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes. Donc si on fait déjà un travail éducatif important...
On comprend le sens de vos paroles. En effet, je vous presse un peu, hein, pardon Pierre, mais nous arrivons au terme de l'émission, mais cette question est essentielle, Corinne Narasiguin, sur la question de l'éducation.
Oui, absolument. Il y a encore une étude qui est sortie récemment sur le fait que les petites filles intériorisent les stéréotypes de genre à peu près l'âge de 6 ans. Donc on voit bien qu'il faut commencer très tôt. Les ABCD de l'égalité, qui effectivement avaient été malheureusement abandonnés, ont tout de même servi parce que ça avait été utilisé comme des pilotes.
Des manuels qu'on distribuait dans les écoles
pour
lutter contre ces stéréotypes.
Oui, et ça a été utilisé comme pilote, ce qui fait que par la suite, même si on l'a fait plus silencieusement, on a réintroduit, notamment dans la formation des enseignants et dans les manuels, les questions de comment est-ce qu'on traite les questions de genre chez les petits. Donc les questions de pour casser les stéréotypes de genre. C'est effectivement très important parce que les femmes aussi intériorisent beaucoup et se briment elles-mêmes. Parce que c'est ce qu'on voit avec la bande dessinée, les jeunes filles cherchent des modèles et il faut leur donner.
Et il faut aussi les montrer. Eh bien, merci à toutes les trois d'avoir été en direct avec nous dans Grand Bien Nous Fasse. Demain, vous retrouverez Ali Rebéi avec un invité unique, le philosophe Alexandre Jolien, La Force des Faibles. Ce sera le menu de Grand Bien Vous Fasse demain. Et Ali attend déjà vos réactions sur le mail de l'émission grandbienvousfasse@radiofrance.com.